Les petits sont de retour à l'école en présentiel. On va appeler ça comme ça pour que les gens comprennent, parce que maintenant, c'est un mot avec lequel on est familier, ça, le présentiel. Les petits sont de retour à l'école, les plus grands, ça va aller la semaine prochaine. Antoine Derry est en ligne. Bonjour, M. Derry.
Bonjour, M. Saint-Pierre.
M. Derry, est-ce que la rentrée s'est bien faite hier?
Oui, les jeunes du primaire sont de retour à l'école, donc comme prévu le 11 janvier, ça se déroule bien jusqu'à maintenant.
Est-ce que c'est le primaire au complet?
Oui, c'est le primaire au complet qui était de retour.
Et à partir de la semaine prochaine, c'est le secondaire au complet.
Oui, tout à fait.
Bon, rappelez-nous un peu là les grandes règles que le gouvernement vous a données là, pour vous diriger à l'intérieur de ça. Premièrement, pour les tout-petits, le masque n'est pas nécessaire dans la classe, il est nécessaire dans les corridors. Est-ce qu'il est nécessaire à la récréation?
Bon, pour le primaire, on parle du masque ou du couvre-visage. Donc, on exclut les jeunes du préscolaire. Il est obligatoire dans les déplacements dans l'école pour tous les élèves. Pour les élèves de 5e, 6e année, il est obligatoire en salle de classe. Il est également obligatoire dans le transport scolaire, mais il n'est pas obligatoire sur la cour d'école.
Bien. Quand on regarde de la manière dont les choses se présentent à l'heure actuelle, M. Derry, est-ce que les enfants, là, d'ordre général, pour ce que vous en savez, là, puis je ne peux pas vous faire de reproches si vous n'êtes pas là à la fine pointe de l'information, coudonc, ça a commencé hier. Mais est-ce que les enfants se plient de bonne grâce? Est-ce qu'ils sont raisonnables par rapport à cette mesure-là?
Les enfants ont une capacité d'adaptation assez surprenante, je vous dirais. Donc, le retour va somme toute très bien. C'est sûr que le port du masque dans la population, là, ça suscite des commentaires. On en reçoit, évidemment. Mais on prévoit des adaptations si les parents désirent garder leur enfant à la maison, faire eux-mêmes la scolarisation ou encore avoir des dispositifs pour avoir les services de l'école virtuelle. C'est toujours possible, mais je vous dirais que dans la très, très grande majorité des cas, c'est un bon retour à l'école.
Bien. La semaine passée, j'étais en vacances, mais je n'ai pas voulu rater le point de presse du ministre de l'Éducation, M. Roberge. En écoutant ça, moi, je trouvais que le point de presse avait de l'allure, c'est-à-dire que les mesures qu'on amenait, la façon de les présenter et tout ça, que ça faisait quand même du sens, et je voudrais qu'on regarde ça ensemble. Si on regarde la pondération des bulletins, M. Derry, est-ce que vous savez, au moment où on se parle, la pondération, elle se fera comment? En fait, le premier bulletin qu'on va remettre bientôt, là, il compte pour combien par rapport au deuxième? Est-ce que vous savez?
Non, on devrait avoir plus de précisions cette semaine. Ce qu'on sait, c'est que c'est reporté au 5 février. C'est une bonne nouvelle en soi. Il y aura donc deux bulletins. On sait qu'il y aura une nouvelle pondération, puis on attend les guides ministériels pour les savoirs essentiels parce que, évidemment, à l'heure actuelle, on est rendu à janvier. C'est une pandémie là, qui dure depuis maintenant presque un an. On peut pas penser qu'il n'y aura pas des effets hein, pour les jeunes.
Ouais.
Donc, il faudra s'attarder sur les savoirs essentiels. Puis ça, le ministère travaille pour nous envoyer des guides pour qu'on se concentre sur ces savoirs-là puis que l'évaluation porte là.
La pondération, est-ce que dans votre tête de gestionnaire, il y a comme une espèce de minimum, là. Je lance un chiffre en l'air, là. Un minimum 50-50. Le premier bulletin, il compte pour 50. Mettons que tu as eu, tu as eu 22, puis le deuxième bulletin, il compte pour 50. Il va falloir que tu aies 75 ou 79 pour te rattraper. Dans votre esprit, une pondération raisonnable commencerait à quel pourcentage pour le premier bulletin?
Je pense que mes gens des services éducatifs seraient mieux placés pour répondre à votre question, mais de façon générale, si on fait la distinction entre les élèves qui ont des épreuves ministérielles puis les autres, je vous dirais que à toute fin pratique, l'évaluation des apprentissages à la fin de l'année, l'enseignant fait un bilan sur l'ensemble de l'année. Donc, on peut bien avoir des pondérations, mais à la fin de l'année, il y a un jugement professionnel qui fait en sorte que, nonobstant la pondération de la première étape, si on juge que l'élève a acquis toutes les compétences requises, l'enseignant cette latitude-là de faire la promotion puis de porter un jugement professionnel. La grosse distinction pour les élèves qui devaient avoir des épreuves ministérielles, c'est qu'elles ont toutes été annulées cette année. Et ça venait influencer l'évaluation globale puisque les épreuves portaient pour 50% de la note de l'enfant. Donc, au niveau de la pondération, on attend les directives, là, notamment pour les élèves du secondaire.
Ouais. Donc, je vais être certain de bien comprendre ce que vous me dites. Donc, pondération ou pas, le professeur a une latitude professionnelle à la fin de l'année. Mais dans le cas présent, j'ai cru comprendre du ministre Roberge qu'il y aura une pondération imposée à la base. Un 40-60, un 45-55, il y aura une pondération imposée.
Vous avez tout à fait raison.
OK, mais vous ne voulez pas me dire, à votre sens, quel serait le minimum?
Non, parce qu'il y a eu beaucoup de discussions. Certains trouvaient que le premier bulletin, la pondération était trop élevée, d'autres pas assez. On va laisser les consignes ministérielles arriver. Les gens des services éducatifs vont regarder avec les établissements et les enseignants ce qui convient. Puis on va s'adapter pour faire en sorte qu'on puisse accompagner les élèves du mieux qu'on peut jusqu'à la fin de l'année, mais surtout pour qu'il y ait une passation qui est adéquate.
Bien, on a donné un peu plus de temps aux professeurs pour compléter ce premier bulletin-là. Là, on leur a donné quelques jours de plus. Certains que j'ai rencontrés ont dit, ben, ça donne pas grand-chose, étant donné que quand on est parti pour les fêtes, la question des notes s'était pas mal réglée.
Effectivement, je voudrais que dans la grande majorité des cas, les enseignants avaient prévu le coup. Il y avait dans le fond, porté un jugement pour les apprentissages qui avaient été réalisés. Donc, ça enlève un peu de pression. Je crois que c'est plus sur la pondération et la flexibilité qui reste à venir que ça va apporter un répit au réseau, puis qui va nous permettre, dans le fond, de s'adapter en fonction du parcours des enfants.
Oui. Les examens du ministère, je voudrais vous entendre là-dessus également parce que on me disait que les examens du ministère, mettons qu'on recule de 3 semaines à 1 mois, mettons qu'on recule avant les fêtes, on m'a dit, moi, que les examens du ministère avaient déjà été revus. Premièrement, est-ce que vous confirmez qu'on avait revu les examens du ministère en fonction des apprentissages qu'on n'avait pas pu réaliser à cause de la pandémie? Est-ce que vous confirmez ça?
Mais il y avait probablement des adaptations qui avaient été réalisées parce qu'on avait reçu, on devait à la mi-année passer des épreuves. On en avait très peu de prévues, mais on en avait quelques-unes. On va retourner toutes les épreuves au ministère de l'Éducation. Donc, moi, j'ai pas vu le contenu des épreuves. Faudrait que je pose la question aux gens des services éducatifs. Mais je présume qu'on avait déjà apporté des modifications. Mais comme ça prend un certain temps à élaborer une épreuve, on comprendra que c'était probablement déjà en planification dès le début de l'année scolaire. Puis avec les récents événements, ben ça force le ministère à avoir ces évaluations. Ouais.
Bon, on enlève les examens du ministère. À votre avis, quel impact ça pourrait avoir, ça, au bout du compte, qu'on enlève les examens du ministère? Parce que, habituellement, ces examens-là, c'est comme une évaluation, une photo, un portrait global du Québec étudiant de secondaire 4, de secondaire 5, puis les autres niveaux là où il pourrait y avoir des examens du ministère, c'est comme un portrait global. Si on l'enlève, est-ce qu'à votre avis, on prend le risque de vivre avec une situation qui va être flottante peut-être pour un an ou deux?
Alors, je peux pas présumer de la suite des choses, mais ce qui va venir garantir, dans le fond, qu'on a une approche universelle au Québec, ça va vraiment être l'apparition des savoirs essentiels pour chaque matière à sanction. Quand le ministère va nous dire, écoutez, on a aboli les épreuves, on a enlevé les épreuves ministérielles pour cette année dans le contexte extraordinaire qu'on vit, veuillez vous concentrer sur ces savoirs essentiels-là. Ça va venir uniformiser la fin de l'année. Mais c'est sûr et certain, M. Saint-Pierre, que je pense au passage d'une école à l'autre ou encore du passage vers le collégial, ça va nous demander plus de collaboration et de communication avec nos partenaires pour s'assurer que les élèves aient un passage là, qui est adéquat et moins pénalisé possible.
Je comprends. Dites-moi, au secondaire, est-ce que les masques vont être fournis par les écoles? Et si oui, en avez-vous reçu?
Oui, masque de procédure, on fait vraiment la distinction entre le couvre-visage et le masque de procédure. Au secondaire, c'est le masque de procédure qui est obligatoire en tout temps, même sur la cour d'école. On avait déjà suffisamment de stock là, pour faire les premières semaines, donc on va distribuer les masques et on en reçoit cette semaine là, du ministère de l'Éducation. Le gouvernement en fournit 2 par élève par jour.